Le roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poesía no te ayuda a vivir, hace otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesía no te aiuta a vivere, allora fate qualcos'altro.
Shiri e Shamunzayadam Jones, Vashka Bishay.
L'émission quinzomadaire de la BIP, Brigade d'intervention poétique, Michel Armatz et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus.
Rukuni Shenwei Shugu, Punan Zhang Shenguo Guan Chintai, Nacho Ching Wangli Shugu.
Ha a költészet nem éltet, fordulj más felé.
Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanc, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Bonsoir, nous retrouvons notre poète invité Jacques Prévert. Jacques Prévert, donc pour ces deux émissions, cette deuxième émission dans le cadre du Printemps des Poètes qui est consacré au rire. Certes, le Printemps des Poètes est déjà passé de quelques jours, mais nous sommes plutôt du côté du plein temps des poètes et nous continuons à évoquer la vie de cet homme incroyable qui était à la fois scénariste, dessinateur, dialoguiste, peintre, colleur de collage et poète à l'occasion. Mais tout ce dont on parle à présent, et ben c'est avant que Prévert n'ait rien publié encore, puisque la première parution de Prévert, ça va être en 1946, ce livre Parole qui est mondialement connu et qui va lui assurer un succès comme très peu de poètes en ont eu, un succès très populaire. Donc on est dans les années 30, Prévert, comme on l'a dit, vivote de petits métiers et essaye de s'approcher de plus en plus du cinéma. Hein, il a fait déjà pas mal de... Il a gagné un peu sa vie en faisant des figurations, en écrivant des petits bouts de dialogue, mais surtout pour des copains et dans des boulots qui sont assez peu rémunérés. Et il va être bientôt sollicité par on a dit aussi qu'il s'engageait de plus en plus, qu'il était de plus en plus sensible à l'état de misère, disons, des classes populaires. Et comme on est juste après la crise de 29, il est sollicité par un groupe de théâtre militant qui s'appelle Prémisse. Il est sollicité par eux à un moment d'ailleurs où il est très proche d'un acteur. Enfin, il est très ami avec Pierre Batchef, qui est un jeune premier du cinéma muet, mais qui est bien plus intéressé par des tragédies, avec qui d'ailleurs il a un projet de tragédie.
Oui, et il se trouve. Mais Batchef, il en a marre de jouer toujours les rôles de jeune premier.
Voilà, justement, Batchef demande à Prévert de lui écrire quelque chose qui soit qui ait un peu plus de fond que des nanettes ou des romans photos, des trucs à l'eau de rose. Donc ils ont ce projet et Pierre Batchef se suicide. Bon, pour des raisons, évidemment, comme tous les suicides, on ne peut pas trop savoir, mais enfin, une grande scène éclate entre lui et sa femme qui découvre qu'il se drogue à la cocaïne. Mmh. Et bon, lui, de désespoir, se suicide. Et les gens du groupe Prémisse viennent le voir juste ce jour-là. Donc, Prévert dit, écoutez, revenez me voir plus tard. Plusieurs jours après, c'est lui-même qui revient avec son copain Lou Bonin, parce qu'ils sont dans cette fameuse bande des Lacoudem, là, qui habitent tous du côté de la rue Dauphine. Et ils viennent, oui, les Lacoudem, ceux qui se reconnaissent en se frottant du coude. Donc, il fait connaissance avec ces gens qui l'ont... Enfin, il a été contacté par le biais, en fait, de Paul Vaillant-Couturier, je crois, ou Léon Moussinac, plutôt, qui est à la tête de la Fédération du Théâtre Ouvrier Français. Et ces gens-là cherchent quelqu'un capable de leur écrire des textes un peu sur l'actualité. Alors on se souvient que Prévert a été pendant tout un temps avec son copain Duhamel. Il a travaillé à l'Argus, c'est-à-dire à faire les découpages de nouvelles dans la presse. D'ailleurs, ils s'amusaient beaucoup avec ça. Ils se sont fait virer parce qu'ils s'amusaient à inventer des fausses coupures de presse. Donc Prévert va commencer à écrire pour le groupe Octobre. Alors là, il y a une espèce de ça fait tilt quoi entre eux. Ça devient très très vite une bande de copains. Enfin, j'ai dit ils s'appelaient Prémisse, mais en fait c'est une scission de ce groupe Prémisse qui va s'adresser à lui, parce qu'il y a une part, certains trouvent que le théâtre qu'ils font est très académique, ça les rase un peu, et ils vont voir Prévert justement pour avoir quelque chose d'un peu plus vivant, plus branché avec l'actualité, et Prévert commence à écrire les premières choses pour le groupe Octobre, dont la fameuse bataille de Fontenoy, qui va être un des plus gros succès de ce groupe. On va écouter tout à l'heure une piécette en entier, hein, le réfractaire, mais auparavant, un des textes qui fait partie de ces monologues ou cœur parlé aussi, parfois c'est des textes qui sont dits à une dizaine, ou encore des dialogues, des trios, etc.
Objet de première nécessité, le morceau de pain, la soutane de prêtre, le képi de flic. C'est pimpant, c'est joli, c'est léger. Voici un objet de première nécessité. Un vieux peignoir de putain. Un vieux peignoir de putain est toujours plus propre qu'une soutane de prêtre. Seulement, quand on a la soutane sur le dos, on est toujours sûr d'avoir le ventre plein. Amen. Voici un autre objet de première nécessité. Un képi de flic. C'est pimpant, c'est joli, c'est léger. Dans le temps, leurs ancêtres portaient des bicornes. Maintenant, ils n'en portent plus. Il y a plusieurs sortes de punaises, de puces. Il y a plusieurs sortes de vaches. Les vaches à pied, les vaches en bourgeois, les vaches en camion, celles-ci livrées en grosse quantité. Le bourgeois ne sort jamais sans sa vache. C'est elle qui l'accompagne quand il rentre tard. Et le soir, dans les squares, elle donne des concerts, et celle de la porte Saint-Denis a une si belle barbe que c'est plaisir que de venir de loin pour la contempler. N'importe quel droguiste du coin vous vendra de la mort aux rats, mais la vente de la mort aux vaches est interdite sous peine de mort.
Debout là-dedans.
Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a la guerre.
Ah, il y avait longtemps. C'est pas la peine de me réveiller pour ça. Vous n'aviez qu'à passer la feuille sous la porte.
La feuille?
Eh ben oui, la feuille de mobilisation.
Mais la guerre, c'est pas la mobilisation. La guerre, c'est la guerre. Et à la guerre, comme à la guerre. Bon allez, hop, habillez-vous et descendez. Les autres sont en bas.
Les autres?
Eh oui, les autres. Mais tout le monde, quoi.
C'est vrai, tout le monde est là et tout le monde chante?
Le jour de gloire est arrivé. La République vous appelle. Sachez vaincre ou sachez périr. Un damné doit vivre pour elle. Pour elle, un damné doit mourir. Entendez-vous dans nos campagnes ces jeunes soldats, s'ils s'obstinent, ces cannibales, à tuer nos pauvres généraux. Nous leur montrerons que nos balles sont pour leurs propres amiraux. De vous les damnés de la terre, c'est la dernière, dernière des guerres.
Le monde gars, arrêtez ça, mais qu'est-ce que c'est? C'est faux, c'est archi faux, arrêtez!
Vous n'êtes plus rien, vous ne serez plus rien du tout. Avec une telle miroute sous les ronces.
Je reconnais les airs, mais les paroles ont beaucoup changé.
On ne peut pas toujours chanter la même chose, hein, ça lasserait.
Évidemment. Je croyais que les prolétaires n'avaient pas de patrie.
Les prolétaires n'ont pas de patrie, mais ils ont une croix à gagner.
Qui a trouvé ça?
Karl Marx.
Vous êtes sûr?
C'est dans le journal. Il y a un manifeste. C'est signé Karl Marx. Un Alsacien, à ce qui paraît.
Quel journal?
Mais il n'y en a qu'un seul. Les autres ne paraissent plus. Si vous voulez jeter un coup d'œil?
Le petit bleu blanc rouge, joli titre.
N'est-ce pas, hein? Bon, puis nous ne sommes pas ici pour lire le journal, hein. Allez, habillez-vous et plus vite que ça.
Bah, vous êtes sûr qu'elle est déclarée?
Quoi?
La guerre.
Mais puisque je vous le dis...
Oh, vous savez, avec les fausses nouvelles, il faut s'attendre à tout.
Mais tenez, je vais vous lire le texte. Si après ça, vous n'êtes pas convaincu. Alors... Déclaration de la guerre et des droits de l'homme réunis. Nous sommes en guerre à partir d'aujourd'hui. Cette guerre étant incontestablement la dernière des dernières, l'homme qui se refuserait à la faire serait considéré comme le dernier des derniers.
Présent.
Hein?
Ben, le dernier des derniers, c'est moi.
Et là, pas de blague, hein. Vous n'allez tout de même pas me créer des complications. Vous pouvez bien faire un petit effort. Puisque je vous dis que c'est la dernière. Et puis, c'est tout de même pas une guerre comme les autres, hein. Je dirais même que c'est pas une guerre du tout.
Qu'est-ce que c'est, alors?
C'est une croisade.
Ah, vraiment?
Au nom du Sacré-Cœur.
Ah ben, vous êtes croyant.
Oui, en temps de guerre, oui. En temps de paix, je suis plutôt libre-penseur, mais la guerre, vous comprenez, ça fait réfléchir. On se sent tout petit, et puis... Et puis le pape est avec nous, alors.
Ah, le pape est avec nous, c'est une chance.
Oui, oui, pour une croisade, pareil, fallait ça, c'est... Oh, c'est quelqu'un. Le pape, c'est un cerveau. Vous avez pas lu son encyclique?
Pardon?
Son encyclique, sa déclaration de guerre.
Et qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, paix, mes agneaux, paix, mes brebis.
C'est tout?
Il dit aussi que Jésus-Christ était le premier des socialistes, que Hitler c'est l'antéchrist, que Mussolini aussi, et que le Mikado pareil, et tous dans le même sac des antéchrists, quoi. Quelle sale race, hein, les antéchrists. Pouah! Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense qu'Hitler c'est un salaud, une ordure, un fumier, un pauvre con.
Et Mussolini?
Mussolini c'est un salaud, une ordure... Un fumier et un pauvre con.
Alors nous sommes d'accord.
Non.
Vous, alors, on peut dire que vous êtes compliqué.
Eh ben, j'aimerais bien savoir ce qu'on a fait, ce qu'on a l'intention de faire, ce qu'on fera avec toutes les vaches, tous les fumiers et tous les cons de par ici.
De par ici?
Oui, enfin, les 200 familles, les Assyries et Turies, comité des forges, les cagoulards, les, enfin, tous ceux qu'on nous représentait avec le 8 reflets et le gros cigare, les capitalistes, comme on disait, les vaches, quoi, les fumiers.
Bon, vous pourriez modérer vos expressions, hein. Bon, puis c'est tout de même pas au moment où l'ennemi est à nos portes qu'on va se battre entre Français.
Évidemment, ça n'est pas correct, mais dites, mon cher gendarme, qui est-ce qui va commander?
Ah oui, ça, ce serait, je dirais même, difficile, absolument impossible.
Une guerre, ça fait beaucoup de morts.
Ah, évidemment, hein. On ne fait pas d'omelette...
Sans casser les œufs.
Comme vous dites, et quand le vin est tiré...
Des spécialistes, des techniciens, il y en a beaucoup.
Mais pas tellement, hein. Pas assez même à ce qu'on dit.
En somme, à cause de quelques militaires spécialistes, on va sans doute tuer des millions de civils non spécialisés.
Oh.
Eh ben alors, au lieu de faire la guerre, pourquoi n'avoir pas tué tous ces militaires?
Mais quoi, vous êtes fou? Mais il est fou! Non seulement il ne veut pas faire la guerre, mais le voilà maintenant qui veut tuer les militaires! Il est fou! Il est fou! Mais il est fou! Il est fou!
À glisser sur terrain. Et tout l'orage heureux de ton corps amoureux sur le parquet ciré, n'a pas fait plus de bruit qu'une écorce d'orange tombant sur un tapis. Mais sous nos pieds, ces petits boutons de nacre craquaient comme des pépins. Aux sanguines, jolis fruits, la pointe de ton sein a tracé tendrement la ligne de ma chance dans le creux de ma main.
Claude Nougaro chantait Jacques Prévert, Sanguine. Nous sommes donc en compagnie de Jacques Prévert pour cette heure. On racontait l'engagement de Jacques Prévert auprès du groupe Octobre, ce groupe, on dira, de théâtre d'agit-prop, on pourrait dire, de théâtre de rue, avant la lettre. Et donc Prévert va commencer à écrire des chœurs parlés, comme il appelle, c'est-à-dire des textes qui sont dits par tout le groupe en réaction à des événements de l'actualité. Il écrit très très rapidement, il est capable d'écrire dans l'après-midi, et en plus c'est son copain Lou Bonin qui fait partie de la bande des Lacoudem, qui d'ailleurs va prendre, parce que c'est un petit peu la mode, le nom russophile de Lou Tchimoukov, qui va être le metteur en scène de ces piécettes. D'ailleurs parfois il trouve des subterfuges pour que les comédiens puissent sortir de scène, aller vérifier, lire leur texte en vitesse, parce qu'ils n'ont pas le temps parfois de l'apprendre. Il va comme ça écrire par exemple un chœur parlé sur Citroën, qui est extrêmement virulent, hein, qui dénonce le lupanar du monde capitaliste, la tour Eiffel sur laquelle André Citroën a fait inscrire son nom en lampe lumineuse. Il va aussi écrire par exemple un petit texte sur le 14 juillet, qu'ils vont dire d'ailleurs dans les balles du 14 juillet. Donc ils vont intervenir partout, parfois même dans les grands magasins. Ils se font évidemment, ils se font jeter par la maîtrise, les vigiles, etc. Mais ils vont au charbon, ils vont absolument partout. Donc je dis qu'ils vont par exemple dans un bal rue de Lappe dire un texte qui dit en gros, voilà, on est le 14 juillet, c'est la fête pour tout le monde, demain c'est le 15, c'est le jour du terme, du loyer, vous allez devoir payer, et ainsi de suite, ça commence comme ça. Alors ils arrivent toujours à se rallier des sympathies dans le public, ils vont jouer aux portes des usines, et Prévert écrit même un texte au moment où Hitler est nommé chancelier en Allemagne, chancelier du Reich, dans lequel il se dit, oui, un peintre à bâtiment, ça fait moins peur qu'un soldat. Mais attention, il peint la ville en rouge sang. Enfin voilà, il va commencer à écrire toutes ces petites piécettes extrêmement branchées sur l'actualité. Et le groupe Octobre va commencer à conquérir une popularité extraordinaire. Et il faut voir aussi ce groupe comme un groupe de copains qui s'entraident, dans lequel il y a, bon, ce sont des jeunes gens, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de liaisons amoureuses qui se font, qui se défont dans ce groupe, mais une très grande cohésion en même temps. Et par exemple, Prévert, qui a déjà un pied dans le cinéma, va constamment faire travailler ses copains du groupe Octobre qui crèvent un peu la faim, hein. Il y a là-dedans d'ailleurs Maurice Baquet qui est apprenti violoncelliste sportif, il y a Raymond Bussière, il y a, on va pas les citer tous, Jean-Paul Le Chanois, enfin, qui s'appelle à l'époque Jean-Paul Dreyfus. Et Prévert va toujours se débrouiller quand il tourne un petit film pour les faire embaucher comme figurants, pour que chacun puisse en tirer quelque chose. Il va même tourner, parce qu'il commence à se faire des liens dans ce milieu, ce film qui s'appelle L'affaire est dans le sac, un film qui tourne en une semaine, ou même je crois en cinq jours, simplement parce que au studio de Joinville, ils ont un copain qui est producteur et qui leur dit, bah voilà un décor qui ne sert à rien, qui a été construit, le film ne s'est pas fait, est-ce que vous voulez faire quelque chose dedans? Et Prévert écrit dans les 15 jours qui précèdent un petit texte et il monte ça, on peut le voir d'ailleurs ce film, on doit pouvoir le trouver en archive avec toute la bande, évidemment Pierre Prévert son frère, mais bon Bussière, enfin on les reconnaît tous à ce moment-là. Donc, comme on l'a dit au début de cette émission, les textes qu'on va dire, eh ben, ils ne sont pas encore publiés puisque Prévert ne publie qu'en 46, mais on va continuer ce petit tour dans Prévertland, voilà, un petit voyage de noces par exemple.
c'est elle ? C'est elle, dit l'homme, je la reconnais. La femme que je cherche depuis des années, celle qui est toujours dans mes rêves, c'est elle, je la reconnais. Elle est assise sur un banc et elle pleure. L'homme s'approche et la questionne. J'aime un homme et il m'aime, alors je pleure, dit la femme. Oh, ce n'est pas le vrai amour, dit l'homme. Donnez-moi l'adresse de cet homme, je vais arranger ça. Et il y va. 5 minutes, le temps de voir l'homme et de le tuer, de fermer la porte et de s'en aller. Quand il revient, la femme est déjà en deuil et prête pour le voyage. Elle sourit. Ils s'en vont, mais le mort est caché dans les bagages. Ils arrivent. Ils dorment. Ils se réveillent. L'homme regarde la femme et il est tout à fait bouleversé. Oh, ce n'est pas elle. Elle a les yeux gris. Elle parle un peu du nez. Oh, ce n'est pas elle, ce n'est pas celle que je cherchais. Je me suis trompé.
Qu'est-ce que vous fabriquez là ? Mais des fabriques. Pour fabriquer quoi ? Mais des fabriques. Mais qu'est-ce qu'elles fabriquent ? Des machines à tuer le monde. Mais quel monde ? Mais tout le monde. Et quand tout le monde sera mort, elles fabriqueront encore. Et quoi ? Des fabriques. Elles fabriqueront pour rien alors. Pour rien, comme vous y allez. Elles seront payées. Par qui ? Par des machines à payer. Mais elles n'auront pas besoin d'argent. Qu'est-ce que vous en savez ?
L'art de Crionphe.
La rousse pour tous. Crionphe, ministre des Beaux-Arts. Grand architecte de la gloire. Son art, bien que monumental, était reconnu d'indispensabilité nationale. On lui doit de très nombreux, autant que remarquables, manu militari monuments érigés sur les plus grandes places publiques de la République empirique.
Sous le ciel bleu de Méthylène, si grave était le chant des grives, et quand tous deux nous gravissions de l'escalier de la maison tous les degrés, sur les murs, avec ton gravoir, tu gravais ma gravelure. Mais qu'importe ? Sur le carré de la distance, de ta porte à ma porte, ton corps et mon corps s'attiraient. Mais aujourd'hui, tout est gravelle, grava, gravois. Tu étais mon gravitateur et j'étais ta gravitative. Hélas, grava, gravel, gravier, ma gravidité t'inquiétait. Je me jetterai de la gravière, j'en gravirai tous les degrés, comme autrefois notre escalier. Oh, ces pagaies, tout a tourné, la mer, le sol, le ciel. Oh, pourquoi t'avoir dit je t'aime ? Me voilà la triste victime de la gravitation universelle.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines le cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes tombent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours les taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent des taxis. Au café, On voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains et qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles. Sur la Seine, les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. V'là l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt, au son de l'accordéon, dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Francis Lemarque chantait à Paris. Francis Lemarque qui au départ chantait sous le nom des Frères Marc avec son frère et qui va d'ailleurs rejoindre aussi le groupe Octobre. Donc ce groupe Octobre pour lequel Jacques Prévert écrit s'étoffe de tas de talents. On va bientôt voir aussi Roger Blin y arriver. Jean-Louis Barrault aussi avec lequel il monte les tableaux. Je ne sais plus quel est le titre exact de ce texte de Cervantes qu'ils adaptent ensemble. D'ailleurs c'est Prévert qui fait l'adaptation. Et le groupe Octobre va être sélectionné, alors que quand même il faut dire que dans ce groupe il y a des gens qui sont d'obédience plutôt trotskiste. Prévert, on le sait, n'a jamais voulu adhérer au Parti communiste. Il dit, moi, si on me met au Parti communiste, mais alors j'écrirai en cellule. Donc il se tient toujours à distance un petit peu, mais malgré tout ils sont sélectionnés parce que c'est les plus brillants, les plus inventifs sur le plan théâtral, pour aller concourir aux Olympiades du théâtre ouvrier à Moscou, qui ont lieu en juillet 33, et donc une bonne partie du groupe, pas tout le groupe, s'en va à Moscou. Alors c'est tout un voyage assez extraordinaire. Tout le monde n'est pas du voyage, malheureusement, puisqu'il y en a certains, comme on l'a dit, qui sont jugés indésirables. C'est d'occasion d'ailleurs de frictions à l'intérieur du groupe, mais bon, ils partent ensemble, ils partent, je crois, du Havre, ils vont jusqu'à Londres rejoindre un bateau soviétique qui va les emmener en traversant la Baltique, en passant par le canal de Kiel, etc. Et alors, petite anecdote, on perd Jacques Prévert à Londres, il disparaît, traîné dans des bouis-bouis où on le retrouve en ayant comme seul dictionnaire, pour lui qui ne connaît pas un mot d'anglais, quelques bouteilles de whisky. On finit par le récupérer. Et quand on repart, alors c'est tout un voyage qui se passe où le groupe répète, avec d'autres groupes qui les ont rejoints d'ailleurs, des Anglais, des Belges également, répètent leur scénette de façon à être le plus au bois possible. Et puis il y a ces scènes qui sont assez terribles, où en traversant le canal, en passant par le canal de Kiel, ils arrivent, je crois, à Hambourg. Le pavillon donc bat, le bateau bat pavillon soviétique, et ils passent devant les bateaux qui sont à quai avec les drapeaux, avec les croix gammées. Et certains du groupe racontent comment discrètement certains marins lèvent le poing quand ils sont hors de vue de leurs supérieurs. Ils voient les compagnies de SS s'exercer à la mitrailleuse sur les quais. Ils font une halte à Hambourg pendant laquelle certains vont au cabaret, Willkommen Stranger, bienvenue, mais d'autres vont aussi prendre contact avec des communistes clandestins et je crois que c'est Raymond Bussière qui raconte comment d'étape en étape on les conduit jusqu'à une fausse réunion de joueurs de cartes dans laquelle ils prennent contact avec des militants communistes, à l'époque évidemment complètement clandestins et pourchassés. Donc ils arrivent à Moscou, ils sont très bien reçus, ils font quand même quelques esclandres parce que Marcel Duhamel, je crois qu'il est dans l'affaire, trouve scandaleux qu'on leur offre des danses traditionnelles soviétiques. Ils disent on n'est pas venu à Moscou 20 ans après la révolution, presque 20 ans après la révolution, pour voir des nanettes et des conneries pareilles. Ils font quelques escandres, mais ils finissent par jouer, et ils jouent devant une salle comble à Moscou, après avoir joué évidemment dans des tas d'usines, des écoles, enfin dans toutes sortes d'endroits. Ils jouent pour le concours la bataille de Fontenoy. Alors la bataille de Fontenoy, on peut le dire, ça se trouve, je ne sais plus si c'est dans Parole d'ailleurs ou dans quel recueil, mais c'est un des trucs les plus connus de Prévert, avec cette fameuse réplique qui a fait que Marcel Carné est tombé amoureux de la façon d'écrire de Prévert. Soldat qui est tombé à la bataille de Fontenoy, vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, ce qui est une figure typique de la façon d'écrire de Prévert. Donc, il joue devant tout le public moscovite. Alors, il y a une petite anecdote marrante, c'est qu'il y a le personnage de Poincaré qui fait partie des personnages de la bataille de Fontenoy, qui est un véritable grand guignol autour de la guerre. Et évidemment, comme Poincaré porte une petite barbiche, il a le front un petit peu chauve, assez dégarni, tout le public moscovite pense que c'est Lénine qui apparaît. Alors, ils font une ovation à Poincaré jusqu'à ce qu'on comprenne l'erreur. Mais malgré ça, la pièce, la bataille de Fontenoy, fait rire malgré le fait qu'elle soit présentée en français, enfin, emporte un succès fantastique. Enfin, ils obtiennent le prix donc de ces Olympiades, avec un petit bémol, c'est que Staline sort à la fin de la pièce, visiblement pas très très intéressé par cette sorte d'humour, ce qui fait que, bon, pour garder la bonne mesure, ils ont le premier prix, mais le prix équivaut à zéro kopeck. Voilà. Voilà la fin du voyage à Moscou, qui va être d'ailleurs le signe un petit peu de la descente. Le groupe Octobre va finalement commencer à rencontrer pas mal de difficultés pour continuer sa route. On va peut-être les laisser là et dire pourquoi, d'une certaine manière, Prévert le dit lui-même dans ce très beau poème qui s'appelle « Compagnon des mauvais jours » et qui est dit par Serge Reggiani.
Compagnons de mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit, mais je m'en vais. La recette a été mauvaise, c'est de ma faute, tous les torts sont de mon côté. J'aurais dû vous écouter, j'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît, mais je n'en ai fait qu'à ma tête et puis je me suis énervé. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez. Moi je prends ma casquette et puis deux ou trois cigarettes dans le paquet. Et je m'en vais. Compagnons des mauvais jours, pensez à moi quelquefois plus tard. Quand vous serez réveillés, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé quelque part, le soir, au bord de la mer, et qui fait ensuite la quête pour acheter de quoi manger et de quoi boire. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez. Moi, je m'en vais.
Il marche dans la rue. Soudain, il s'arrête. Il pense à une femme qu'il a beaucoup aimée. C'est à cause d'elle qu'il a tué. Cette femme, il ne l'aime plus. Mais jamais il n'a osé le lui dire. Il ne veut pas lui faire de la peine. De temps en temps, il tue quelqu'un pour elle. Ça lui fait tellement plaisir à cette femme. Lui, il mourrait plutôt que de la faire souffrir. Il s'en fout de souffrir, l'assassin. Mais quand c'est les autres qui souffrent, il devient fou, sonné, cinglé, hors de lui. Il fait n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, et puis après, il fout le camp. Chacun son métier, il y en a qui tuent, d'autres qui sont tués. Il faut bien que tout le monde vive. si tu appelles ça vivre. L'assassin a parlé tout haut et le type qui l'interpelle est assis sur le trottoir. C'est un chômeur. Il reste là du matin au soir, assis sur le trottoir. Il attend que ça change. Tu sais d'où je viens ? Lui dit l'assassin. L'autre secoue la tête. Je viens de tuer quelqu'un. Il faut bien que tout le monde meure, répond le chômeur.
Je vais, d'où je viens, pourquoi je suis trempé, voyons, ça se voit bien, il pleut. La pluie, c'est de la pluie, je vais dessous et puis, c'est tout, c'est tout. Passez votre chemin. Comme je passe le mien, c'est pour mon plaisir que je patauge dans la boue. La pluie, ça me fait rire, je ris de tout et de tout et de tout. Si vous avez la larme facile, rentrez plutôt chez vous, pleurez plutôt sur vous. Mais laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Je ne veux pas entendre le son de votre voix. Passez votre chemin comme je passe le mien. Le seul homme que j'aimais, c'est vous qui l'avez tué, matraqué, piétiné, achevé. J'ai vu son sang couler, couler dans le ruisseau, dans le ruisseau. Passez votre chemin comme je passe le mien. L'homme que j'aimais est mort, la tête dans la boue. Ce que je peux vous haïr, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et vous, vous attendrissez sur moi. Vous êtes trop bon pour moi. Beaucoup trop bon, croyez-moi. Vous êtes bon comme le ratier et bon pour le rat. Mais un jour viendra où le rat vous mordra. Passez votre chemin, homme bon, homme de bien.
Jean Guidoni chantait « Toute seule » de Jacques Prévert.
Avez-vous des nouvelles ? Des nouvelles de quoi ? Des nouvelles du monde, des nouvelles du monde. Il paraît qu'il va changer. La vie va devenir très belle. Tous les jours on pourra manger. Il y aura beaucoup de soleil. Tous les hommes seront grandeur naturelle et personne ne sera humilié. Mais voilà l'hirondelle qui revient. L'assassin s'en va. Le chômeur reste là et il se tait. Il écoute les bruits, il entend des pas et il les compte pour passer le temps machinalement. 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Jusqu'à 100, plusieurs fois. C'est un homme qui fait les 100 pas au rez-de-chaussée, dans une chambre remplie de paperasse. Il a une grosse tête de penseur, des lunettes en écaille, une grosse tête de roseau bien pensant. Il fait les 100 pas et il cherche. Il cherche quelque chose qui le fera devenir quelqu'un. Et quand on frappe à sa porte, il dit « Je n'y suis pour personne ». Il cherche. Il cherche quelque chose qui le fera devenir quelqu'un. Le monde entier pourrait bien frapper à sa porte. Le monde entier pourrait bien se rouler sur le paillasson et gémir et pleurer et supplier, demander à boire ou à manger, qu'il n'ouvrirait pas. Il cherche. Il cherche la fameuse machine à peser les balances. Lorsqu'il l'aura trouvée, la fameuse machine à peser les balances, il sera l'homme le plus célèbre de son pays, le roi des poids et mesures de la France. Et en lui-même, il pose de petits cris « Vive papa, vive moi, vive la France !»
Il y a toujours du sang, il y a toujours quelqu'un qui est laissé sur le pavé dans les histoires de Jacques Prévert. Voilà, cette émission, on l'a fait aussi pour montrer le côté le plus anard et le plus rebelle de ce poète dont des centaines de groupes scolaires portent le nom en France, mais dont on a retenu peut-être que l'aspect le plus innocent, le plus inoffensif. Donc Prévert s'est investi dans le groupe Octobre. Et les années qui vont de 30 à 36 et la montée du Front populaire font que, curieusement, paradoxalement, le groupe Octobre fait de moins en moins de choses. D'abord parce que Prévert s'investit de plus en plus dans le cinéma. Il commence à tourner, surtout avec Marcel Carnet, avec qui il va réaliser des chefs-d'œuvre. Hein, il commence à se faire connaître dans le milieu du cinéma. C'est d'ailleurs à la suite du premier carnet qu'il fait que Jean Gabin tombe sous le charme des textes de Prévert et va demander à ses producteurs de travailler avec le tandem Prévert et Carnet. Donc Prévert s'écarte un petit peu pour des raisons professionnelles, aussi parce que le groupe a pu un rond. Tout simplement, il faut savoir que Marcel Duhamel, qui était fils d'un hôtelier assez riche, était un des pourvoyeurs de fonds, enfin aider le groupe à tenir le coup. Et en plus, c'était sujet à tension, puisque Marcel Duhamel était montré au doigt par le PC dans ce groupe. Et puis, finalement, aussi, et de plus en plus, l'atmosphère va se tendre dans toute l'Europe. On va voir en 36 la chute de la République espagnole. Et surtout, le PC demande à ce groupe Octobre de rentrer un petit peu dans le rang, de pratiquer la politique de la main tendue avec les socialistes, avec les catholiques. Et bon, on sait que c'est un petit peu difficile de demander à Jacques Prévert de remballer un petit peu toutes les convictions qu'il a sur ces sujets. Donc, il va s'éloigner petit à petit du groupe Octobre. Le groupe Octobre s'arrêtera en 36. Et il va aussi s'éloigner de Simone, dont il se sépare. Il va rencontrer Jacqueline Laurent, qui est une jeune actrice. D'ailleurs, il aura beaucoup de jeunes actrices et de jeunes danseuses dans la vie de Jacques Prévert. Et il va d'ailleurs partir avec elle en voyage. Alors, Jacqueline Laurent est une jeune première qui a 18 ou 19 ans. Il faut raconter peut-être dans les aspects un petit peu fous et suicidaires de Prévert cette histoire où ils habitent tous les deux à l'hôtel Saint-Benoît et Prévert un jour se pend au balcon un petit peu bourré, se pend à l'extérieur du balcon au 7e étage. Évidemment, tous ses camarades qui arrivent là le voient pendu au 7e, en train de faire le clown et menaçant de tomber. Et puis, au bout d'un moment, il se lâche même d'une main. Il a toujours sa clope au bec, puisqu'on sait bien qu'il n'y a pas de Prévert sans clope au bec. Et il la prend et il commence à se brûler la main là, avec laquelle il tient encore au balcon, quoi. Bon, on finit par le rattraper. Mais enfin, voilà le genre d'extrême auquel il peut se livrer, chose qu'on ne connaît pas toujours. Donc, il part avec Jacqueline Laurent, dont il aurait aimé qu'elle soit la vedette de Quai des Brumes qui va tourner avec Marcel Carnet, mais la production en décide autrement. Jacqueline Laurent est appelée aux USA et il va faire un long voyage. Il va s'absenter pendant presque un an et il va parcourir tous les USA avec Jacqueline.
Je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allée au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes pour toi, mon amour. Et puis, je suis allée au marché aux esclaves et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour.
Quelque part où il y a la mer, dans le rêve je ne sais où c'est. Une fille nue, sans être remarquée, traverse une foule tout habillée. Elle me surprend sans me troubler. C'est d'abord cela mon rêve. Mais soudain je vois ma mère dans une grande voiture d'un autrefois encore récent, une voiture pour noces et banquets, avec les chevaux, le cocher. La mariée, c'est ma mère. Est-elle en blanc? Je n'en sais plus rien maintenant. Près d'elle, il y a mon père, ou peut-être que je l'ajoute maintenant, et ma mère m'aperçoit et sourit de son sourire toujours enfant. Mais elle a pour moi en même temps un regard de tendre et douloureux reproche. Je n'ai pas d'excuse. J'aurais dû aller à son mariage. Bien sûr, je n'étais pas invité. Je suis de la famille et on m'attendait. Maintenant, il est trop tard, la fête est passée, et ce n'était pas pour moi. La moindre, mais la plus pressante des choses à faire, je ne l'ai pas faite. C'est quand il n'y a pas grand monde qu'il y a quelque chose.
Messieurs, nous voulons bien traîner vos voitures, vos charrues, faire vos courses et tout le travail, mais reconnaissons que c'est un service que nous vous rendons. Il faut nous en rendre aussi. Souvent, vous nous mangez quand nous sommes morts. Il n'y a rien à dire là-dessus si vous aimez ça. C'est comme pour le petit déjeuner du matin. Il y en a qui prennent de l'avoine au café au lit, d'autres de l'avoine au chocolat, chacun ses goûts. Mais souvent aussi, vous nous frappez. Cela, ça ne doit plus se reproduire. De plus, nous voulons de l'avoine tous les jours, de l'eau fraîche tous les jours, et puis des vacances, et qu'on nous respecte. Nous sommes des chevaux, on n'est pas des bœufs. Premier qui nous tape dessus, on le mord. Deuxième qui nous tape dessus, on le tue, voilà. Et les hommes comprendront qu'ils ont été un peu forts. Ils deviendront plus raisonnables. Il rit le cheval en pensant à toutes ces choses qui arriveront sûrement un jour. Il a envie de chanter, mais il est tout seul, et il n'aime que chanter en chœur. Alors il crie tout de même « Vive la liberté !» Dans d'autres îles, d'autres chevaux l'entendent, et ils crient à leur tour de toute leur force « Vive la liberté !» Tous les hommes des îles et ceux du continent entendent des cris et se demandent ce que c'est. Puis ils se rassurent et disent en haussant les épaules « Ce n'est rien, c'est les chevaux. » Mais ils ne se doutent pas de ce que les chevaux leur préparent. En argot, les hommes appellent les oreilles des feuilles. C'est dire comme ils sentent que les arbres connaissent la musique. Mais la langue verte des arbres est un argot bien plus ancien. Qui peut savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent des humains? Les arbres parlent arbres, comme les enfants parlent enfants. Quand un enfant de femme et d'homme adresse la parole à un arbre, l'arbre répond, l'enfant l'entend. Plus tard, l'enfant parle arboriculture avec ses maîtres et ses parents. Il n'entend plus la voix des arbres, il n'entend plus leurs chansons dans le vent. Pourtant, parfois une petite fille pousse un cri de détresse dans un square de ciment armé d'herbes mornes et de terre souillée. Est-ce la tristesse d'être abandonné qui me fait crier au secours ou la crainte que vous m'oubliez, arbre de ma jeunesse pour de vrai? Dans l'oasis du souvenir, une source vient de jaillir. Est-ce pour me faire pleurer? J'étais si heureuse dans la foule verte de la forêt, avec la peur de me perdre et la crainte de me retrouver. N'oubliez pas votre petit ami, arbre de ma forêt.
La guerre approche. La guerre à un bruit de bottes se fait de plus en plus audible en France et ailleurs. Jacques Prévert va réussir à échapper à la mobilisation tout simplement parce qu'il est malade à ce moment-là. Et il s'investit de plus en plus dans le cinéma, malgré le climat de plus en plus délétère qu'il y a en France. On sait qu'il a tourné, alors la liste est très impressionnante de tous les films qu'il a tourné avec Carnet, avec Grémillon, avec Feder, je crois aussi, avec Claude Autant-Lara également, c'est un des premiers avec qui il travaille. Et il va continuer à vivre de cette manière, mais il va s'expatrier de Paris. Enfin, il va commencer à vivre de plus en plus souvent à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud, où il rencontre Chagall, d'ailleurs, où il y a amitié avec lui. Également avec André Verdet, qui est un poète avec qui il a fait beaucoup de choses, et qui, lui, est chef d'un réseau de résistance. Prévert ne va jamais s'engager dans la résistance, en tout cas il adopte un point de vue pacifiste. Il dira d'ailleurs « je n'ai tué personne après la guerre et c'est peut-être pour ça que personne ne m'a tué ». Il dira également à des personnes qui lui disent « vous rendez compte, si tout le monde avait fait comme vous ?» Et Prévert répondra « oui, et alors, si tout le monde avait fait comme moi ?» Voilà. On lui laisse le choix de cette chose, évidemment, mais ça ne veut pas dire que Prévert ne s'engage pas dans les petits événements, puisque d'une part, il va continuer à faire travailler ses amis Alexandre Trauner, qui est décorateur, qui est juif, Joseph Kosma, avec qui il a écrit déjà une bonne trentaine de chansons. Il va aussi, parfois même, donner des coups de main. On connaît cette anecdote dans laquelle il doit aller... Verdet lui dit, voilà, il y a une planque qui va sauter, il y a là des paquets de documents extrêmement importants. Si la Gestapo les découvre, c'est des gens qui tombent. Prévert fait le mur, rentre, ça se passe à Paris, rentre dans l'appartement en question, arrive à brûler tout ce qu'il y a là, ressort au nez et à la barbe de garde de la Gestapo et demande immédiatement du feu à un des deux, quoi. Et il passe en faisant le salut hitlérien et personne n'y voit que du feu. Donc voilà, Prévert est capable aussi de gestes extrêmes, extrêmement dangereux aussi, et on ne peut absolument pas le taxer d'être passé, disons, du mauvais côté. Alors il continue d'ailleurs à tourner hein, pendant toute la guerre. Il défendra même à la fin de la guerre, il défendra Arletty qui est attaqué par toutes sortes de gens, enfin de gens qui se sont découverts résistants à la dernière minute. Pour avoir travaillé dans le cinéma. Il dira d'ailleurs ce petit mot, je préfère collaborer avec Tino Rossi qu'avec la Gestapo, puisqu'il tourne pas mal de films, des bluettes un petit peu à l'époque. Voilà, il va donc continuer son itinéraire dans le cinéma. C'est surtout d'ailleurs comme scénariste qu'on va le connaître, bien avant qu'apparaisse comme poète, puisque c'est seulement en 1946, après la guerre, que René Berthelet va lui demander de retrouver tous ses textes. Auparavant, en 1936, je crois, il avait confié des textes qu'il avait écrits pendant son voyage au Baléares avec Jacqueline Laurent, qui s'appelle « Lumière d'homme », et Guy Lévis-Manot, qui est à l'époque ce petit éditeur-imprimeur et poète, va perdre le manuscrit et ça ne paraîtra jamais. Mais finalement, c'est en 1946 que va exploser le grand Prévert mondialement connu. Voilà, on va donc écouter un dernier titre de musique, Stormy Weather, par Billie Holiday, avant d'entendre le salut que fait Jacques Prévert à son ami qui, lui, n'est pas revenu de cette aventure, à son ami dont nous avons déjà parlé, à son ami Robert Desnos.
There's no sun up in the sky, stormy weather, since my men and I ain't together, keeps raining all the time, the time. Life is bad. You in misery everywhere, stormy weather, just can't get my heart set together. I'm weak all the time. Oh, if he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord will let me walk in the sun once more. Raining all the time. stays away. Old rocking chair will get me. All I do is pray. The Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather sets my men and I together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time.
Robert Desnos, je suis devant un micro et je parle de toi. Et tu es là toi aussi, et même si tu te tais, nous parlons tous les deux. Tous les deux, comme hier. Qu'il serait idiot d'appeler déjà autrefois. Bien sûr, le temps passe. Le temps nous dépasse, nous impasse, nous trépasse. C'est l'impasse-temps, le trépasse-temps. Mais qu'il soit spatial ou des cerises, ou perdu ou gagné, le temps, Robert, dis-moi qui sait ce que c'est et ce que c'est. Il n'a pas de présent, le temps ne fait pas de cadeaux. Mais ce qu'ils appellent le souvenir, quand il est vrai, il est vivant. Et je parle avec toi comme il y a des années dans la rue Saint-Merry, au comptoir d'un bistrot, comme à la terrasse de Cyrano, un Cyrano de Montmartre et pas d'Edmond Rostand, comme à la radio pour deux armes quand nous faisions des essais de publicité improvisés toutes les semaines. Deux idiots parlent de la baleine. C'est peut-être un projet pour une marque de savon, de parapluie ou de corset, est-ce que je sais. On disait des âneries immédiates, des absurdités instantanées. L'absurde n'était pas encore à la mode, il n'était pas catalogué. On riait. Et maintenant tu es mort. Tu es mort, mais tu n'es pas mort à la guerre, tu es mort contre la guerre, la haine, la connerie. Robert, mon ami. André Verdet m'a raconté qu'à Buchenwald, lorsqu'arrivait un nouveau convoi de déportés, tu disais « Peut-être que Prévert est là-dedans ?» C'est une grande marque d'amitié qu'avoir envie, sans réfléchir, de retrouver un ami. Et puis, sur un grabat de liberté, le typhus t'a emporté. Comme les hommes, les rats font la guerre, et la guerre pour les hommes, comme pour les rats, c'est une bonne affaire, une valeur sûre et déclarée. Mais on ne déclare jamais la paix. On en parle, mais si la guerre est trop froide, au napalm, on la fait réchauffer. Enfin, au revoir, Robert. À la radio aussi le temps est compté, mais l'oiseau bleu couleur du temps du rêve, du temps de vérité, te salue et te chante amitié.
Sur ces belles notes du trio Hadouk s'achève cette émission consacrée au jeune Prévert qui se termine donc avec la guerre. Nous avions la chance et le plaisir d'avoir aussi parmi les donneurs de voix de ce soir Jean-Claude César, Delphine Mélez et Florence Mouriras, en plus des piliers indéfectibles Patrick Vendrin, Yves Flanck. La BIP est toujours au rendez-vous de l'imprévu. Vous pouvez l'inviter à venir dire les poètes sur vos lieux de loisirs, sur vos lieux de travail et sur vos lieux de paresse. Cette émission en podcast sur les sites des radios qui la diffusent et l'écouter aussi en archive permanente sur le site www.michelarbatz.com. À bientôt.